Bonsoir, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Bon, alors qu'est-ce qu'on fait?
Et si je poussais une longue plainte déchirante pudiquement cachée sous la morsure cinglante de mon humour ravageur? Encore faudrait-il que je croie en un combat. Bien sûr, si j'avais cette hargne mordante des artistes engagés qui osent critiquer Pinochet à moins de 10 000 km de Santiago. Mais je n'ai pas ce courage. Je suis le contraire d'un artiste engagé. Je suis un artiste dégagé.
Mais ô grand Dieu, qu'est donc cela? Comment appellerons-nous ce malheur? Quel est ce vice horrible, de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux. De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d'une armée, non d'un camp barbare contre lequel chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul. Non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un homme laid, souvent le plus lâche, le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles ni guère foulé le sable des tournois, qui n'est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette. Nommerons-nous cela lâcheté? Appellerons-nous vil et couard ces hommes soumis? Si deux, si trois, si quatre, sept à un seul, c'est étrange, mais toutefois possible. On pourrait peut-être dire avec raison ces fautes de cœur. Mais si cent, si mille souffrent l'oppression d'un seul, dira-t-on encore qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui, ou qu'ils ne le veulent pas, et que ce n'est pas couardise mais plutôt mépris ou dédain? Enfin, si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes, ne pas assaillir celui qui les traite tous, comme autant de serfs et d'esclaves, comment qualifierons-nous cela? Est-ce lâcheté? Mais tous les vices ont des bornes qu'ils ne peuvent pas dépasser. 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre 1. Mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n'est pas couardise. Elle ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas d'un seul homme qu'il escalade une forteresse, attaque une armée, conquiert un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci, qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer. Ils sont vraiment extraordinaires, les récits de la vaillance que la liberté met au cœur de ceux qui la défendent. Mais ce qui arrive partout et tous les jours, qu'un homme seul en opprime 100 000 et les prive de leur liberté, qui pourrait le croire s'il ne faisait que l'entendre et non le voir? Et si cela n'arrivait que dans des pays étrangers, des terres lointaines, et qu'on vint nous le raconter, qui ne croirait ce récit purement inventé? Or, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels et, pour ainsi dire, de bête, redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi ? Si pour avoir la liberté, il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait ? Et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante ? Certes, comme le feu d'une petite étincelle grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter. De même, plus les tyrans pillent, plus ils exigent. Plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d'autant, deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien, de même que la branche n'ayant plus de suc ni d'aliment à sa racine devient sèche et morte.
Parce que ouh
ouais,
la même chose.
C'est parti.
Dans un square, petit Benito se moque des manières de Marcello.
Marcello dit à Benito:
tu n'es vilain, tu es pas beau.
Benito dit:
quand je redoute, j'acculerai les efféminés. Tu vivras toi et tes manières une journée particulière.
C'était mignon, c'était taquin, c'était évident déjà gamin.
Mussolini était chafouin.
Allez les enfants!
Dans un petit square de quartier,
petit Adolphe,
petit Moshe,
joue au billes sans rien penser.
Petit Adolphe se fait plumer, il dit:
je serai chancelier et je te ferai voyager. Tu prendras les trains en famille, tu te souviendras du sac de billes.
C'était mignon, c'était coquin, c'était évident déjà gamin.
Hitler était un bout en train.
Nya 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 nya.
Ouais.
Nya 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 nya.
Il faut les gamins, les gamines, ronger le mal par la racine.
Ne pas contrarier dans les squares,
moustache borne ou chemise noire.
Comme les grands n'ont pas de mémoire, qui font rien qu'à répéter l'histoire. Les petits sont le seul espoir.
Faut pas t'accuser les connards.
Non, c'est l'inverse qu'il faut faire.
Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme hardi ne redoute aucun danger. L'homme avisé n'est rebuté par aucune peine. Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté commune aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer, c'est la liberté. Un bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent. Et sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semble-t-il, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient. Comme s'ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce qu'elle est trop aisée. Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte ? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même ? Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même ? Vous semez vos champs pour qu'ils les dévastent. Vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries. Vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure. Vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qu'ils les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'il soit plus fort et qu'il vous tienne plus rudement la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez, même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolu à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.
We'll be right back.
Les médecins conseillent justement de ne pas chercher à guérir les plaies incurables. Et peut-être ai-je tort de vouloir ainsi exhorter un peuple qui semble avoir perdu depuis longtemps toute connaissance de son mal. Ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons donc à comprendre, si c'est possible, comment cette opiniâtre volonté de servir s'est enracinée si profond qu'on croirait que l'amour même de la liberté n'est pas si naturel. Il est hors de doute, je crois, que si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d'après les préceptes qu'elle nous enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets de la raison, sans être esclaves de personne. Chacun de nous reconnaît en soi tout naturellement l'impulsion de l'obéissance envers ses pères et mères. Quant à savoir si la raison est en nous innée ou non, je ne pense pas errer en disant qu'il y a dans notre âme un germe naturel de raison. Développé par les bons conseils et les bons exemples, ce germe s'épanouit en vertu, mais il avorte souvent, étouffé par les vices qui surviennent. Ce qu'il y a de clair et d'évident, que personne ne peut ignorer, c'est que la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous créés et coulés en quelque sorte dans le même moule pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. Et si dans le partage qu'elle a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, elle n'a cependant pas voulu nous mettre en ce monde comme sur un champ de bataille, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ou les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y malmener les plus faibles. Croyons plutôt qu'en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns et plus petites aux autres, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, puisque les uns ont la puissance de porter secours, tandis que les autres ont besoin d'en recevoir. Donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, puisqu'elle nous a tous logés dans la même maison, nous a tous formés sur le même modèle, afin que chacun puisse se regarder et quasiment se reconnaître dans l'autre comme dans un miroir, puisqu'elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour mieux nous rencontrer et fraterniser, et pour produire par la communication et l'échange de nos pensées la communion de nos volontés, puisqu'elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le nœud de notre alliance, de notre société, puisqu'elle a montré en toute chose qu'elle ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul être. Comment douter alors que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux? Il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort. Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle. C'est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. Et s'il s'en trouve par hasard qui en doute encore, abâtardis au point de ne pas reconnaître leurs dons ni leurs passions natives, il faut que je leur fasse l'honneur qu'ils méritent et que je hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chair pour leur enseigner leur nature et leurs conditions. Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent bien les entendre, leur cri « Vive la liberté !» Plusieurs d'entre elles meurent aussitôt prises. Tel le poisson qui perd la vie sitôt tiré de l'eau, elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Si les animaux avaient entre eux des prééminences, ils feraient de cette liberté leur noblesse. D'autres bêtes, des plus grandes aux plus petites, lorsqu'on les prend, résistent si fort des ongles, des cornes, du bec et du pied, qu'elles démontrent assez quel prix elles accordent à ce qu'elles perdent. Une fois prises, elles nous donnent tant de signes flagrants de la connaissance de leur malheur, qu'il est beau de les voir alors languir plutôt que vivre, et gémir sur leur bonheur perdu plutôt que de se plaire en servitude. Que veut dire d'autre l'éléphant, lorsque s'étant défendu jusqu'au bout, sans plus d'espoir, sur le point d'être pris, il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que son grand désir de demeurer libre lui donne de l'esprit et l'avise de marchander avec les chasseurs, à voir s'il pourra s'acquitter par le prix de ses dents et si son ivoire laissé pour rançon rachètera sa liberté. Nous flattons le cheval dès sa naissance pour l'habituer à servir. Nos caresses ne l'empêchent pas de mordre son frein, de ruer sous l'éperon lorsqu'on veut le dompter. Il veut témoigner par là, ce me semble, qu'il ne sert pas de son gré, mais bien sous notre contrainte. Que dire encore? Même les bœufs sous le joug geignent, et les oiseaux en cage se plaignent. Je l'ai dit autrefois en vers. Ainsi donc, puisque tout être pourvu de sentiments sent le malheur de la suggestion et court après la liberté, puisque les bêtes, même faites au service de l'homme, ne peuvent s'y soumettre qu'après avoir protesté d'un désir contraire, quelle malchance a pu dénaturer l'homme, né pour vivre libre, au point de lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir de la reprendre ?
Ceasefire.
Ireland.
Freedom.
Freedom. Let's talk about freedom. Freedom! Let's talk about freedom. Freedom to choose, baby. Freedom to lose. Freedom to love who you want, baby. Freedom to love God above. God above, baby, come on. Talk about freedom. 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 Freedom, yeah! About peace, freedom to scream about peace, freedom in the European East, baby, not just the European East. I want some freedom to smoke some herb,
smoke some herb.
I want some freedom to do what I want,
do what I want, baby.
Freedom to cry,
freedom to cry,
freedom to lie,
freedom to lie,
freedom to love, baby,
love, baby, love, baby.
Freedom of love.
God above, God above.
God above, baby, come on. Songs about freedom, yeah. This song's about freedom, yeah. This song's about freedom, yeah. Freedom,
freedom,
yeah.
Vous voyez cette plume ? Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire, je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux, que vois-je ? Dans l'obscurité de la chambre, des myriades d'étincelles. Elle s'en allait rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire avec des grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule il tire une plume, il me la tend et il me dit « C'est une plume d'ange, je te la donne, montre-la autour de toi qu'un seul humain te croit et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croit avec ta plume d'ange, adieu. Et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. » Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restais longtemps illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange. Oui, un ange était là, il vient de me la donner. Oh, ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies et tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit. Fous-moi la paix, je voudrais dormir, et cesse de fumer ton satané népal. Elle me tourne le dos. Et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrai ma plume à l'Afrique, aux poubelles, et bien sûr aux pigeons qui me firent des roucoulements de considérations admiratives. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. « Tu m'entends bien, André ?» Qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédictions guerroyantes et funestes. À dégager. Fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement la tempe. Il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi, sensible, moi, enclin au mysticisme sauvage, moi, devais reconsidérer cette apparition. Le repos, l'air de la campagne, avec les oiseaux, précisément, les vrais. Je me retrouve dans la rue grondante, tenaillant la plume dans ma poche. Que dire? Que faire? Monsieur l'agent, regardez, c'est une plume d'ange. Il me croit. Aussitôt, les tonitruants troupeaux de bagnoles déjà hargneuses s'aplatissent. Des hommes radieux en sortent, auréolés de leur volant, et s'embrassent en sanglotant. Oh, oh, soyons sérieux. Je marchais, dévorant les visages. Celui-ci, la petite dame, et soudain, l'idée m'envahit, évidente, éclatante. Abandonnons les hommes, adressons-nous aux enfants, eux seuls, que la foi est plus belle que Dieu. Les enfants, oui, oui, mais lequel? Je marchais toujours, je marchais encore, je ne regardais plus la gueule des passants hagards, mais en moi, des guirlandes de visages d'enfants, mes chéris, mes féeriques, mes crédules me souriaient. Je marchais, je volais, le vent de mes pas feuilletait Paris. Pages de pierre, de bitume, de pavés maintenant, ceux de la rue Saint-Vincent. Les escaliers de Montmartre, je monte, je descends, et je me fiche devant une école, rue du Mont-Cenis. Quelques femmes attendaient la sortie des gosses. Faussement paternelles, j'attends moi aussi. Les voilà. Il débouche de la maternelle par fraîche bouffée, par bouillonnement bariolé. Mon regard papillonne de frimousses en minois qu'étant une révélation. Sur le seuil de l'école, une petite fille s'est arrêtée. Dans la vive lumière d'avril, elle cligne ses petits yeux de jais un peu bridés, un peu chinois, et se les frotte vigoureusement. Puis elle reprend son cartable orange tout rebondi de mathématiques modernes. Alors j'ai suivi la boule brune et bouclée de sa tête, gravissant derrière elle les escaliers de la butte. À quelques cent mètres, elle pénétra dans un immeuble. Longtemps, je suis resté là, me caressant les dents avec le bec de ma plume. Le lendemain, je revins à la sortie de l'école, et le surlendemain, et les jours qui suivirent. Elle s'appelait Fanny, mais je ne me décidais pas à l'aborder. Et si je lui faisais peur avec ma bouche sèche, ma sueur sacrée, ma pâleur mortelle, vitale, alors qu'est-ce que je fais? Je me tue, je l'avale, ma plume, je la plante dans le cul somptueux de ma passion néfaste. Et puis, un jeudi, je me suis dit, je lui dis,
Les poumons du printemps exhalaient leur première haleine de peste paradisiaque. J'ai précipité mon pas, j'ai tendu ma main vers la tête frisée. Au moment où j'allais l'atteindre sur ma propre épaule, une pesante main s'est abattue. Je me retourne, ils étaient deux. Ils empestaient le barreau. « Suivez-nous, le commissariat. »« Vous connaissez un peu les commissariats ?» Les flics qui tapent le carton dans de la gauloise, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant. Il ne roulait pas les mécaniques, il roulait les airs. « Asseyez-vous. Il me semble déjà vous avoir vu quelque part, vous. Alors, comme ça, on suit les petites filles. » Quitte à passer pour un détraqué, je vais vous expliquer, monsieur, la véritable raison qui m'a fait m'approcher de cet enfant. Je sors ma plume et j'y vais de mon couplet nocturne et miraculeux. Fanny, j'en suis certain, m'aurait cru. Les assassins, les polices, notre séculaire tennis de coup dur, tout ça c'était fini, envolé. Voyons l'objet, me dit le commissaire. D'entre mes doigts tremblants, il saisit la plume sainte et la fait techniquement rouler devant un sourcil bonhomme. « C'est de l'oie, ça, me dit-il. C'est pas de la colombe, en tout cas. Hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vous ressemblez étonnamment à l'inspecteur Colombo. Monsieur, ce n'est pas de l'oie. C'est de l'ange, vous dis-je. » « Calmez-vous, calmez-vous. Mais vous avouerez tout de même qu'une telle affirmation exige d'être appuyée par un minimum d'enquête à défaut de preuves. Enfin, écoutez, vous allez patienter un instant. On va s'occuper de vous gentiment. Gentiment. » On s'est occupé de moi, gentiment. Entre deux électrochocs, je me balade dans le parc de la clinique psychiatrique où l'on m'héberge depuis un mois. Parmi les divers siphonnés qui s'ébattent ou s'abattent sur les aimables gazons, il est un être qui me fascine. C'est un vieil homme, très beau. Il se tient toujours immobile dans une allée du parc devant un cèdre du Liban. Parfois, il étend lentement les bras et semble psalmodier un texte secret, sacré. J'ai fini par m'approcher de lui, par lui adresser la parole. Aujourd'hui, nous sommes amis. C'est un type surprenant, un savant, un poète. Vous dire qu'il sait tout, a tout connu, appris, compris, senti, perçu, percé, c'est peu dire. De sa barbe massive, un peu verte, aux poils épais et tordus, le verbe sort, calme et fruité, abreuvant un récit où toutes les mystiques, les musiques, les métaphysiques, les philosophies s'unissent, se rassemblent pour se ressembler dans le puits étoilé de sa mémoire. Dans ce puits de jouvence intellectuelle, saut, je descends, saut, débordant de l'eau fraîche et limpide de l'intelligence alliée à l'amour, je remonte. Parfois, il se tait. Il me contemple en souriant. Des plis de sa robe de bure, il sort des noix, des grosses noix, qu'il brise d'un seul coup dans sa paume, crac, pour me les offrir. Un jour où il me parle d'ornithologie comparée entre Olivier Messiaen et Charlie Parker, je ne l'écoute plus. Un grand silence se fait en moi. Mais cet homme dont l'ange t'a parlé, cet humain qui peut croire à ta plume, cet homme introuvable, eh bien oui, c'est lui, il est là, devant toi. Sans hésiter, je sors la plume. Les yeux morts dorés lancent une étincelle. Il examine la plume avec une acuité qui me fait frémir de la tête aux pieds. « Quel magnifique spécimen de plume d'ange vous avez là, ami !»« Alors, vous me croyez, vous le savez ?»« Parbleu, je vous crois. » Le tuyau légèrement cannelé, la nacrure des barbes, on ne peut s'y méprendre. Je puis même ajouter qu'il s'agit d'une peine, d'Angelus maliciosus. Mais alors, puisqu'il est dit qu'un homme me croyant le monde est sauvé, je vous arrête, ami, je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, nullement, je suis un noyé. « Vous vous êtes noyé ? Non, je suis un noyé, l'arbre, je suis un arbre. » Il y eut un frisson de l'air. Se détachant de la cime du grand cèdre, un oiseau est venu se poser sur l'épaule du vieillard et je crus reconnaître, miniaturisé, l'ange malicieux qui m'avait visité. Alors, tous les trois, l'oiseau, le vieil homme et moi,
Nous avons ri, oh, oh, nous avons ri longtemps, longtemps. Oh, oh, le fou rire, quoi, le fou rire. Le fou rire.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu. Ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire, à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre, un signe. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Tu me disais, je t'aime, que ce verbe m'émeut. Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste l'eau de vie de pomme, de prune, de poire dans la toile étoilée de l'Auguste Renoir. Je gorge qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, une plume de cygne. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Dans mes yeux, un triangle superbe. Puis le soir obscurcit la pelouse, pour l'oiseau laissons les gâteaux secs, c'est parfait, on repart à Toulouse, Lautrec. Papaya de
Quand j'en aurai assez d'entendre les enfants pleurer dans le noir, quand j'en aurai assez de voir les villes crouler sous les cendres, quand j'en aurai assez des larmes, des cris, du sang et du vacarme, quand j'en aurai assez du monde, à moi, la lune blonde. Terre, lune, ce soir j'ai mis mes ailes d'or, dans le ciel comme un météore je pars. terre, lune, j'ai quitté ma vieille atmosphère, j'ai laissé les morts et les guerres. Au revoir. Dans le ciel piqué de planètes, tout seul sur une lune vide, je rirai du monde stupide et des hommes qui font les bêtes. Terre, lune, adieu ma ville, adieu mon cœur, globe tout perclus de douleur, bonsoir. Vive la nuit, j'ai levé l'ancre. À moi les pluies d'astéroïdes et les comètes à l'œil livide, diamants éparpillés dans l'encre. À moi les étoiles de miel, fleurs de topaz et de rubis. À moi le silence éternel de l'espace infini. Terre, lune, voyez se lever le croissant, lune terrestre au firmament, bonjour. Terre, lune, voilà l'Afrique et l'Amérique et l'arrêt sombre des tropiques autour. Un jour viendra, dans ma retraite, où je verrai le nez levé exploser ma triste planète qui se prétend civilisée. Terre, lune, monde pourri, monde trop vieux, Pierrot, là-haut, te dit ce soir, adieu.
Il serait temps que l'homme s'aime, depuis qu'il sème son malheur. Il serait temps que l'homme s'aime, il serait temps, il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meure, avec un matin dans le cœur. Il serait temps que l'homme pleure le diamant des jours meilleurs. Assez, assez, qu'il est gorille, laissez tasser, arrêtez votre humanerie. Assez, assez, crie le désert et les glaciers. Les épines hérissées, déclouez votre Jésus-Christ. Assez suffit. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Depuis les siècles noirs qu'il saigne dans les barbelés de ses fronts, il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. Assez, assez, crie le ruisseau dans la prairie, crie le granit, crie le cabri. Assez, assez, crie la petite fille en flamme dans son dimanche de napalm. Éteignez-moi, je vous en prie. Assez. Que l'homme s'aime, c'est peu dire, mais c'est là mon pauvre labeur. Je le dis à vos poils à frire, moi le petit soldat de peur. Que l'homme s'aime, c'est ne dire qu'une parole rebattue. Et sur ma dérisoire lyre, voyez déjà elle s'est tue. Mais voici que dans le silence s'élève encore l'immense cri. Délivrez-vous de vos démences, crie l'éléphant, crie le gri gris, crie le sel, le cristal, le riz, crie les forêts, le colibri, les clématites et les poncées, le chien jeté dans le fossé, la colombe cadenassée. Entendez-le, ce cri immense, ce cri, ce rejet, cette transe. Expatriez votre souffrance, qui les sépulcres et les nids. Assez, assez.
Femmes et hommes, de la texture de la parole et du vent, qui tissez des tissus de mots au bout de vos dents, ne vous laissez pas attacher, ne permettez pas qu'on fasse sur vous des rêves impossibles. On est en amour avec vous tant que vous correspondez aux rêves que l'on a fait sur vous. Alors le fleuve amour coule tranquille. Les jours sont heureux sous les marronniers mauves. Mais s'il vous arrive de ne plus être ce personnage qui marchait dans le rêve, alors soufflent les vents contraires, le bateau tangue, la voile se déchire, on met les canots à la mer. Les mots d'amour deviennent des mots couteaux qu'on vous enfonce dans le cœur. La personne qui hier vous chérissait, aujourd'hui vous hait. La personne qui avait une si belle oreille pour vous écouter pleurer et rire ne peut plus supporter le son de votre voix. Plus rien n'est négociable, on a jeté votre valise par la fenêtre. Il pleut et vous remontez la rue dans votre pardessus noir. Est-ce aimer que de vouloir que l'autre quitte sa propre route et son propre voyage? Est-ce aimer que d'enfermer l'autre dans la prison de son propre rêve? Femmes et hommes de la texture de la parole et du vent, qui tissez des tissus de mots au bout de vos dents, ne vous laissez pas rêver par quelqu'un d'autre que vous-même. Chacun a son chemin qu'il est seul parfois à comprendre. Femmes et hommes de la texture de la parole et du vent, si nous pouvions être d'abord toutes et tous et avant tout et premièrement des amants de la vie, alors nous ne serions plus ces éternels questionneurs, ces éternels mendiants qui perdent tant d'énergie et tant de temps à attendre des autres, des signes, des baisers, de la reconnaissance. Si nous étions avant tout et premièrement des amants de la vie, tout nous serait cadeau, nous ne serions jamais déçus. On ne peut se permettre de rêver que sur soi-même. Moi seul connais le chemin qui conduit au bout de mon chemin. Chacun est dans sa vie et dans sa peau, à chacun sa texture, son tissage et ses mots.
Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus, les mots. Les mots pour rire, les mots d'amour, les mots dits pour de mentir. Les mots bruissants comme des rameaux, les mots ciselés comme des émaux.
la faim de mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots bués, comme un baiser sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissants, les mots. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin.
Il se peut que parfois tu pointes du doigt un objectif à atteindre, une étoile, une voie. Il se peut que souvent tu montres aux gens le chemin de la vérité, comment suivre le vent. Amis, femmes que tu aimes, famille, respecte-les. Ne sois pas destructeur de leur vie anticipée. Entends-les, écoute-les, regarde-les et surtout nommez. D'oublier que le passé ne se revit jamais. Tu grandis, tu réfléchis, tu te dis et te redis que souvent les gens t'emmerdent, les gens chiants. Mais as-tu déjà ne serait-ce que pensé un instant que tu leur déplais également, bizarre qui te dit, bizarre, tu es complètement bizarre. Et tu répondras à tous ces gens qui se marrent, tu répondras simplement que la normalité et l'enrôlement sont deux mots sur lesquels tu chies depuis longtemps. Pays de merde, pas tant que ça, problème de développement. Morale physique et psychique, c'est un enterrement. Pays de merde, pas tant que ça, nous sommes tous combattants. Moraux, physique et psychique, de notre envolement. Tu avances dans la vie, tu ne regardes plus tant que ça. Dans la glace autour de toi, tu ne cherches plus, va. Tu avances, tu grandis et vieillis, tu passes le pas. Tu réagis et interagis avec ton présent, évite les dégâts. Il se peut que parfois tu pointes du doigt. Il se peut que parfois tu hésites entre tes choix. Alors hausse le regard et vois au-dessus, que bien plus grand cherchera toujours à te pousser le cul. Pays de merde, pas tant que ça. Pays de merde, ouvre les yeux et tu verras.
Stop!
Le sentiment de supériorité ne sera marqué que par la liberté. Le sentiment de pouvoir ne sera marqué que par l'union de l'espoir. Le sentiment de colère ne pourra être remplacé que par son envers. Les sentiments lourds ne pourront être remplacés que par l'amour. Je suis aujourd'hui obligé de me risquer à contrer la supériorité. Je suis aujourd'hui obligé de me risquer à combattre, quitte à crever. Pas la peine de regarder derrière, je ne chercherai qu'à prôner la liberté. Pas la peine de faire marche arrière, je ne supporterai de regretter. Je suis aujourd'hui obligé d'essayer de rêver d'un aimable pouvoir. Je suis aujourd'hui obligé d'essayer de croire en une véritable révolution, pour voir. Pas la peine de se mettre des œillères, je ne pourrai que prôner l'espoir. Pas la peine de briser les verrières, je ne supporterai de le voir. Hier, nos anciens, nos parents se battaient contre la colère des tyrans. Hier, nos anciens, nos parents se tiraillaient pour combattre les pervers, leur colère. Ça vaut le coup de se dire et d'y croire que l'envers du décor existe encore. Ça vaut le coup de se regarder et de s'apprécier sans se juger et s'aimer. Hier, nos anciens, nos parents se battaient contre un mode lourd. Hier, nos anciens, nos parents se tiraillaient pour survivre à ce four. Ça vaut le coup de se dire et d'y croire que l'amour prendra, elle surpassera. Ça vaut le coup d'effacer ces sentiments lourds et de n'y placer que l'amour. Hier, aujourd'hui ou demain, je vaincrai supériorité, colère et mal baiser. Hier, aujourd'hui ou demain, avec surprise, je regarderai le pouvoir et sa main noire. Hier, aujourd'hui ou demain, malgré le risque de vous perdre à chaque moment, je serai patient. Hier, aujourd'hui ou demain, j'espère continuer à avancer à vos côtés et à être grand. Pour pouvoir battre, combattre, survivre et surtout croire que tous mes désespoirs partiront à l'abattoir.
Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew, 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 crew.
Dark shit, one shot, truc qui raye le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic. Chouk chouk musique, écoute le crew quand tu fais crac crac. Rasgar, capac, t'arraches la langue comme un tic. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4-car. Hardcore, pauvre tocard, j'suis comme un persévère. Faut que ce truc persévère, putain mec check sévère. Pas de ukulélé, pas de bimop loula. Le croustille dans ta bouche comme une cracotte ou un granola. Ma face de gogol fait trop flipper les fous, mais ça me ramène plein de cagoles quand j'enfile
si
cette
cagoule. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew.
Le lapin veut sa stup dose, prêt à mordre jusqu'au sang. Il utilise sa truffe rose pour aller gratter quelques sons et sa tétale en sautillant toujours au bord de l'overdose. Comment bouffer du stup sans choper la mixomatose? Ça veut du hip-hop psychotrope, il provoque des cloques qui claquent. Mec, j'ai la grosse grosse patate qui scie les pattes aux psychopathes. Les haters font yesh, sont louches comme des DRH. Mec, c'est haut, faut que tu me lâches, t'es qu'une pauvre cloche te clash. Piston rentre à la niche face aux ouf qui se postiche. Dans le crew, pas de caniche, pas de potiche, pas de triche. J'ai le flip flip crew, pas de Philippe Nicolique. Hardcore psychédélique, me demande pas
si
ce que je fabrique, mec.
Des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew.
C'est pas de la soupe, balance des bombes, j'suis dans ma stup soucoupe. Ma zik et ma soupape, j'découpe ce truc au coupe, coupe. Ma clé card rock, te bratte, file des claques, fume tes clopes. J'suis le hip hop cyclope qui va te. Stupé flip, super top, ça tartine le slop. C'est la panique dans ton fut, pas de flop pour ma clé. Le son du crew te tient en laisse, faire les oufs qui te bottent les fesses. Que tu piges, y'a pas de caresses, rascarca dans tes corneflex. Tout ça à don, ça tue la teuf, juste un son qui fout des baffes. J'suis king du bâtard, toujours ok pour niquer tes baffes. C'est du lourd, c'est de l'or, ce qu'y a dans mon disque dur. Je fais des disques d'art qui seront
si
disques d'or.
Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew, 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 crew.
Tu passes des soirées enflammées. Tu commences à t'amuser. T'en viens à fumer des clopes, le début du cyclope. Tu passes des soirées de plus en plus folles. La weed commence à être servie en bol. T'en viendras à des choses plus tard, beaucoup plus dures. Un sentiment de supériorité? Pas sûr. Sais-tu que le côté festif de la chose se transforme souvent le lendemain en dose? Se cacher derrière ne sert à rien. Autant l'assumer, lever la main, dire « Je le jure, je ne consomme que de la pure !» Prouver que tu sais te déboîter, tu sais comment t'envoler. Seulement as-tu pensé à la chute? N'oublie ton parachute. Sentiment distingué se transforme en amour manqué. En une sorte de colère, de tristesse, cela fait ressortir tes faiblesses. Sois fort et croyant, cela t'aidera à redevenir grand. Ce sentiment de descente aujourd'hui me hante. Non pas de drogue dure, mais d'un amour pur, qui aurait pu aller plus loin, qui aurait pu lier nos mains. Dans de moments magiques, des photos féeriques. Lendemain de soirée, je sais les gérer, habitué déjà à trop décoller. Lendemain d'amour, je ne suis vraiment pas pour. Je ne sais réagir, je ne sais comment remonter, éviter le pire. Je l'aimais, je l'aime et l'aimerai. Tout ça n'existerait si dans ma vie tu n'étais rentré, si seul dès le départ tu m'avais laissé. En pleine descente de toi, en pleine descente de quoi? En pleine descente de toi, je suis vraiment pas serein, droit. Complètement perdu, rattrapé par des sentiments déchus. J'aimerais me blottir dans tes bras, prendre ma force et crier « Marie, jouis, Anna !» Il faut se relever, faire semblant, croire ou espérer. Que tu retrouveras ce sentiment perdu, ces ressentis foutus. Peut-être cesser de penser et se laisser des ailes pousser. Cet amour indéfini profitera sûrement. Mais pas le même qu'avec toi. Je t'aime tant. Je suis bien plus fort prêt à combattre les méandres de mon sort. Je suis sûrement trop faible pour réussir à l'instant et avoir ses ailes. Mais pas prêt de lâcher le morceau. Je n'en ressortirai que plus grand, plus beau. Continue à me défoncer d'amour pur et d'eau fraîche, c'est sûr. Ne pas regarder derrière, juste assumer le fait que tel en mer, tu t'es laissé porter par des flots, amicaux, amoureux et sentimentaux. La vie continue. Il faut saisir l'opportunité d'être de nouveau nu, devant elle ou vous autres, de vous prouver que j'arrive pas en apôtre.
Yeah. portière dans les boîtes en plein air. Il y a la vaisseur, la mer et les dauphins qui nagent. Ici même la lumière du soleil est à fond dans le humeur. Je fume le cynisme, mets-toi des cigares de Cuba que j'enfonce au profond de tes cuisses qui saignent dans les verres de champagne. Je leur vends de la poudre à leurs yeux qui disent où est les Golden Boy et vendeurs de tapis. Bien sûr, on la cote de nos champs près des sacs à viande. Quand elle voit les dollars et puis la colombienne, les pays secrets, yummy, yummy. Sur le dance floor, faut dire, y a de la bombe et du ciel dans les yeux de ce monde qui ne dote rien. Du plastique dans les seins, puisque tout a son prix, puisque rien ne vaut rien.
Je passe mon temps à attendre que quelque chose vienne me surprendre. Je passe mon temps à être triste, c'est toujours le même tour de piste. Tel un lion en cage, j'attends mon tour, que Monsieur Loyal et la foule m'appellent. Ils attendent mon réveil. Je regarde le ciel, j'essaye de faire le sourd. Un coup de fouet dans la gueule, je dois me relever. Un coup de fouet dans le cul, c'est vraiment à moi de me lancer. J'effectue mes figures les unes après les autres. Vous me regardez faire, plus stupides les uns que les autres. J'ai pas envie de recommencer. Mais vous, dompteur, en avez différemment décidé. Je suis une âme triste, j'aimerais m'échapper, me sentir libre et vraiment réconforté. Pouvoir aller gambader dans la savane, profiter des êtres chers. Pouvoir sauter et arrêter de geindre à chaque effort que je dois faire. Je suis une âme peureuse, malgré ma crinière et ma gueule poreuse. J'ose pas y aller, je trouve pas la voie, pour sortir de cette foutue cage et vous faire tous un doigt. Je dois trouver le chemin seul, trouver ces putains de clés, me permettant d'ouvrir et d'aller créer. Je dois rien à personne, trouver cette putain de force, me permettant de vivre une vie féroce. Je fais du mal autour de moi, pourtant je vous en prie, croyez-moi. Ce n'est que message d'alerte, d'une situation vraiment pas inerte. Un mal-être profond, une douleur de con. Je ne trouve pas la définition de réussite personnelle. J'ai pas les épaules d'une situation réelle. Je veux m'en sortir, arrêter de fléchir, comme ce lion sans muscles, capable du pire. J'y arriverai, mais je ne sais combien d'étapes je dois passer. Peut-être encore un paquet, franchement, qui le sait. Mais je trouverai la marche la plus haute, qui me fera accéder à d'autres toits, à une autre vue, et surtout, un autre moi. J'aime la vie, bordel, mais tel ce lion en cage. Je me perds dans mon désespoir et dans ma rage. Rendez-moi ma liberté que je ne sois plus conditionné, pour une réussite dans une société que je n'arrive pas à piger. La force, je la trouverai, de me relever sans ce dernier coup de fouet. La patience, j'apprendrai, d'être avec moi-même en paix. La vie est courte, je vais me le faire tatouer, non pas dans l'oreille, mais sur mon âme blessée. Tel un lion en cage, je vous regarde. Tel une âme en rage, je vous observe. Un jour, la porte d'elle-même s'ouvrira. Et mon bonheur, enfin, deviendra.
Yep. I came in this game like a motherfucking rat. Like I was starving for things I never thought I could have. I give you all I got, now you talk behind my back. I ain't a time philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you and gave you all of my time. I taught you all I learned, lended you what I earned. Without me now you ain't even a piece of shit, you turd. Huh. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Understand that? Shit, I'm about to start the game. Not the same level, struggle, sacrifices, pain. Hey,
yo, ain't no question in the battle is the best. You better not test, I ain't got to be the guest. Yes.
Wanna snatch my dreams, I'ma be your worst nightmare.
If you do, you don't distinguish what I'm saying. Many meanings in my text, but I swear this shit no fiction. I wrote these lines cause it relived a big part of my pain. It would never be the same, nigga, I was still yelling.
Yesterday we were brothers, so now we enemies. I understand I'm no longer, now man, my time ain't free. Yesterday we were brothers, so now we
Desiderata. Allez tranquillement par l'imi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible, en bons termes avec toute personne. Dites doucement mais clairement votre vérité. Écoutez les autres, même si les simples d'esprit et les ignorants. Ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs. Ils ont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne. Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe. Soyez vous-même. Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez-vous une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devait. Quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix de votre cœur. Avec toutes ses perfidies et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. Tâchez d'être heureux.
Sadou et brocoli. Quelques chai plus tard, et de jour en jour, nous nous comprenions davantage. J'ignorais son nom. Raju, peut-être. À peu près 15 ans, il vivait dans la rue principale, entre le chai shop au pied du temple et la dernière petite épicerie. Il dormait dehors, mangeait ce qu'on lui donnait. Il affichait toujours un merveilleux sourire. Les gens le connaissaient et rares étaient ceux qui ne s'intéressaient pas à lui. Au vu de ses réactions, jamais violentes, au vu de son comportement dans la rue, on m'expliquait que chez lui, sa différence était d'être simple. On l'aurait étiqueté ailleurs, rangé dans une case. On l'aurait privé de sa liberté. Il ne poussait pas le raisonnement certainement bien loin et son avis sur le monde devait se limiter à l'instant présent. Je me sentais proche de lui. Je lui ressemblais aussi. Nous avions lié amitié au gré de nos amusements, de nos rires, de nos grimaces partagées que je lui avais apprises. La première fois qu'il s'était assis près de moi, c'était un matin. Je buvais mon premier chai et lui en avait proposé un. Quelle horreur! Son sourire, sa douceur et sa gentillesse contrastaient on ne peut plus avec l'odeur d'urine qu'il dégageait. Extrêmement sensible aux odeurs et de bon matin, je faisais appel au patron du lieu pour non l'expulser, mais au moins l'inviter à prendre un certain recul. Un certain recul à mon tour, j'en pris un quelques jours plus tard. J'avais eu une idée merveilleuse à ce moment-là, de lui proposer de descendre les marches du Ghat pour nous rendre sur les berges du Gange. Qu'il se lave, quelle idée bien occidentale et tellement égoïste. Qui allais-je satisfaire, sinon moi-même ? croyant rien faire, j'allais le nier, nier son histoire. Aussi, j'abandonnais cette stupide idée pour nous permettre de nous rencontrer au gré de nos envies, de nos humeurs et bien d'autres choses qui nous dépassent. Certains matins, certains soirs, je le cherchais dans la rue. Où avait-il choisi de passer la nuit ? Sur les marches du Grand Temple ou bien ailleurs, où la vie l'avait conduit ? Nos rencontres devenaient toujours de vrais moments de joie. Je le découvrais filou et d'une réelle intelligence dont ses yeux en étaient le reflet. Un matin, je descendais comme tous les jours au bord du Gange pour partager avec les pèlerins une puja. Je fus surpris de le voir non loin de moi. Mais en fait, je n'étais pas surpris en y réfléchissant. Il lui avait fallu juste du temps, son temps. Je recevais cela comme un cadeau qui me procura une émotion et une joie réelle, intense. Il avait décidé du moment et savait forcément que j'attendais ce moment-là. Mother Ganga, qui la nomme. Ce jour-là, je me sentais présent grâce à lui. Seulement un homme.
Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie, on voit fuir la fumée. Et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu, ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs, seulement la girouette soufflait au firmament. Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs, qui s'était mis en quête, a regardé le sable en s'y couchant bientôt, lui, que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux loups veteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune, au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux, quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable et semblable la danse, mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé, Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors, il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi, la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer. Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds, a roulé. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clou est au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils entourés en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avait voulu l'attendre, et comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'hommes, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce que l'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah! Je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis, après moi, souffre et meurs sans parler. Vous étiez dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, un patchwork de notes, de sons et de mots, avec ce soir dans le patchwork Monsieur Desproges, Nathalie qui nous a lu un texte du discours de la serviture volontaire de la Boétie sur une sonate au clair de lune. L'autre morceau du patchwork qui partait sur les joyeux urbains, la marche turque, toujours sur la lecture de la Boétie, Creedence, Lord Bishop, Plume d'ange lu par Monique Flamand, suivi du déjeuner sur l'herbe de Claude Nougaro, d'un texte lu toujours par elle de Boris Vian, Terre-Lune,
femme et homme, assez de Nougaro, les mots de Nougaro, on n'en a jamais assez. Guillaume a repris le flambeau pour continuer à tricoter ce patchwork, l'assemblée. Pays de merde, pas tant que ça, un texte de Guillaume. Lu par Guillaume, Kings of Leon, Sex and Fire. Venez rejoindre ensuite le sentiment de supériorité, suivi de Stupéflip, Kokolov, Saez, Le Temps Passe, Riles, Desiderata, texte d'un illustre inconnu. Vous avez entendu la musique qui nous accompagne aussi, que vous entendez donc. Ryuichi Sakamoto, ça fait 30 émissions que j'apprends le nom par cœur. Ryuichi Sakamoto.
Vous avez entendu aussi La mort du loup d'Alfred de Vigny, lu par James.
Et je vais laisser un petit espace pour que... Monique, merci beaucoup d'être venue nous lire si magnifiquement Plume d'ange.
Ça m'a fait très plaisir. J'aime beaucoup ce texte de Nougaro.
Guillaume, merci d'être venu tenter de lire tes propres textes.
Ouais. Merci à vous de m'accueillir et de m'avoir fait participer à cette aventure.
À la technique, monsieur Christophe Becquereau, notre insondable sondier, et les textes, le texte qu'a choisi Nathalie Vautier, le discours de la servitude.
Volontaire. D'Étienne de la Boétie.
Voilà, merci beaucoup. Prochaine émission le 28 juin, même heure, même endroit, n'oubliez pas, vous avez toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés. Bonsoir.
Merci James.
Merci.